What's up Europe?
Quelle novità in Europa?
Che passa Europa?
Quelle novità Europe?
What's up Europe?
What's up Europe sur Sensation, en partenariat avec Café Babel.
Il y a presque 5 ans, jour pour jour, l'Europe et ses États membres étaient en pleine déroute, désorganisés et apeurés par l'arrivée de centaines de milliers de migrants et demandeurs d'asile sur mer ou sur terre. Ces personnes fuyaient alors la guerre en Syrie et des situations pour le moins compliquées aussi en Irak ou en Afghanistan pour sauver la face du continent supposé la plus humaniste. Au monde, la Commission européenne imposa des quotas de relocalisation aux pays membres. Ce fut alors un échec. 35 000 personnes seulement furent accueillies dans ce cadre-là. L'Allemagne, de sa propre initiative, accueillit près d'un million de réfugiés. Elle, l'Europe de l'Est, ferma ses frontières et refusa toute coopération sans que personne ne puisse y faire grand-chose. C'est pour éviter une telle débâcle à l'avenir que la Commission européenne a présenté en septembre dernier son pacte pour l'asile et la migration, quelques jours seulement après l'embrasement en Grèce du camp de Moria. Un pacte très fourni en pages et en propositions qui repose sur de nombreuses législations à revoir et à voter et qui vont nourrir les discussions ici au Parlement et entre les institutions. Un pacte aussi très critiqué déjà car accusé de répondre aux exigences des pays les plus durs sur le sujet. Alors est-ce vraiment le cas? L'Europe se donne-t-elle enfin les moyens d'anticiper les prochaines crises migratoires? Celles-ci ne manqueront pas du fait du réchauffement climatique. Notamment, nous allons tenter de répondre à ces questions et à bien d'autres dans ce nouveau numéro de What's Up Europe, une émission proposée par la rédaction de Café Babel en partenariat avec Radio Sensation. Et pour nous aider à y voir plus clair, aujourd'hui, depuis le Parlement européen de Bruxelles, nous sommes avec Fabienne Keller. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes membre, Fabienne Keller, du groupe centriste Renew au Parlement européen. Vous siégez au sein de la Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures. Et à ce titre, vous êtes rapporteur sur la mise en application du règlement de Dublin, le sujet principal de ce pacte migratoire, ce nouveau pacte présenté par la Commission. D'ailleurs, est-ce que vous êtes toujours en train d'étudier la mise en place de Dublin du fait des nouvelles annonces et de la remodélisation annoncée du règlement de Dublin?
Alors, il y a eu ces annonces, en effet, le 23 septembre, mais mon travail se termine. C'est un travail d'évaluation, ce qui est toujours un travail très utile pour préparer les nouveaux textes, les nouveaux règlements ou directives. Cela m'a permis d'aller sur le terrain, de discuter beaucoup avec mes collègues. Et c'est la méthode du Parlement européen. Il nous faut construire des consensus, des compromis dans l'avenir. Donc c'est très important d'avoir un état des lieux qui est clair sur la réalité de la mise en œuvre de la politique migratoire européenne.
Et vous avez pu du coup vous faire une idée claire sur le sujet. Comment vous avez, vous, accueilli ces propositions émises par la Commission avec ce nouveau pacte pour l'asile et les migrations qui vise, je cite, c'est inscrit sur le site internet de la Commission, à instaurer un climat de confiance grâce à des procédures plus efficaces et un nouvel équilibre entre responsabilité et solidarité. Ce sont de très beaux mots comme ceci. Est-ce que vous partagez ce constat? Est-ce que ça permettra de réaliser tout ce qui est indiqué sur le site internet de la Commission?
Alors, ces propositions étaient très attendues. Il y avait d'ailleurs eu des premières propositions après la crise que vous avez très, très clairement rappelée de 2015-2016, dès 2017. Mais elles n'ont jamais pu aboutir puisque le Parlement européen a défini une position mais à laquelle le Conseil ne s'est jamais intéressé.
Donc... Oui, sa position, c'était d'abolir clairement
Oui, enfin, de faire évoluer l'ensemble du paquet asile, mais le Conseil ne s'est jamais intéressé, du coup, à ces propositions, considérant qu'elles étaient trop éloignées de ce qu'il pourrait accepter. Donc voilà de nouvelles propositions sur la table. Il était temps. C'était un engagement fort de Madame von der Leyen. Mais bien sûr, il n'y a pas de solution simple sur un sujet tellement complexe, avec des personnes qui essayent d'entrer légalement ou illégalement en Europe, qui aspirent pour la plupart au statut de réfugié, mais tout le monde ne peut pas être accueilli. Comment les accueillir dans des conditions dignes? Leur exprimer, leur expliquer, une fois que leur dossier sera examiné, en respectant tous les droits qui sont les leurs, notamment le droit d'appel, qu'ils peuvent être accueillis, très bien, ou pas, et donc les encourager à retourner vers leur État membre. Ces politiques aujourd'hui ne marchent pas du tout. Les délais sont très longs et quelque part l'incendie de Moria Et
début septembre, oui, du camp, de ce
du
fameux
camp. Sur une île grecque qui accueillait trois fois plus de personnes que la capacité du camp.
Plus d'une dizaine de milliers de personnes.
Voilà, pour 3000 places. Mais au pic, elle en accueillait 10 fois plus. Donc des conditions sanitaires déplorables, des gens qui étaient là depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, avec des enfants. Enfin, c'est la preuve de l'absurdité, de l'horreur même, de l'inaction de l'Union européenne. À quoi elle aboutit, la non-décision? Eh bien à cela, des personnes qui ne sont pas prises en charge, y compris des familles. Donc ce n'est pas possible, ce n'est pas l'Europe que nous aimons.
Et la principale cause de tous ces malheurs, visiblement, c'est le règlement de Dublin. Pour faire un point et expliquer à ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, ce règlement est rentré en vigueur en 1990. Il était révisé deux fois depuis. Et depuis 2013, il fixe la règle que le pays d'entrée d'un demandeur d'asile ou d'un migrant est le seul responsable de l'instruction de son dossier. Cela a pour conséquence, on le sait dorénavant, de peser très lourd sur les pays frontaliers, enfin situés aux frontières extérieures de l'UE, parmi lesquels l'Italie et la Grèce, qui sont aussi très impactés par les crises financières et économiques. Aujourd'hui, ce fonctionnement-là, cette règle-là de Dublin n'est pas remise en cause par ce nouveau pacte. Soyons clairs, il est élargi, notamment pour le rassemblement familial, mais il n'est pas profondément remis en cause.
Alors les critères sont quand même rapides. Parce qu'en fait, déjà le règlement de Dublin prévoyait par exemple que le fait d'avoir un membre de sa famille dans un pays de l'Union européenne permettait de rejoindre ce pays pour faire les démarches de demande d'asile. Mais en fait, ça n'a jamais été vraiment mis en œuvre. Là, le nouveau projet de règlement propose aussi de prendre en compte par exemple des études ou la connaissance d'une langue d'un État membre pour rejoindre celui-ci.
Donc ça ne concernera pas beaucoup de personnes, visiblement.
Ah, la question de la présence de la famille, par exemple, d'un membre de la famille dans un État membre concerne beaucoup de personnes.
Pour les gens qui fuient des théâtres de crise et de guerre.
Alors, il y a deux situations, en fait, qui sont envisagées désormais par la Commission. Une situation plutôt habituelle et une situation de crise. Donc, en effet, ces critères sont plutôt adaptés à une situation habituelle. Mais, comme vous le rappeliez, Dublin... Et mon évaluation, enfin, j'ai pu montrer que ça ne marche pas du tout. Le règlement de Dublin prend en charge ce qui se passe quand la personne ne dépose pas son dossier dans le bon état membre. Beaucoup de travail administratif, de vérification du statut de la personne, de ses documents, de son visa, de ses papiers d'identité, pour en fait des retours vers le pays où il devrait normalement faire sa demande, autour de 20%, ça dépend des états membres. Mais très peu d'efficacité dans ce dispositif et beaucoup de dégâts humains parce que tout ça dure très longtemps et met les personnes dans des situations provisoires de logement.
Terrible. Selon les données officielles, depuis les années 90, 35 000 personnes seraient mortes en tentant de rejoindre l'Europe. Ce sont les données officielles. C'est un sujet très complexe, vous le disiez, et ce nouveau pacte aussi est très complexe. Pour y voir plus clair, je vous propose de regarder ce module explicatif et pédagogique préparé par la rédaction de Café Babel.
Lors d'une rencontre le 20 octobre entre le gouvernement allemand et les représentants des villes du pays, plusieurs dizaines de maires se sont déclarés prêts à recevoir rapidement des réfugiés, notamment après l'incendie du camp de Moria en Grèce. Mais le gouvernement allemand a vite calmé leur ardeur, rappelant qu'il fallait tout d'abord coordonner cet accueil au niveau européen. Une réponse européenne? La Commission pense la même chose. C'est pourquoi le mois dernier, elle a proposé un nouveau pacte migratoire censé réformer le système Dublin. Alors qu'est-ce qu'on change?
We all share the benefits. We all share the burden.
Cela veut dire qu'en période de forte pression ou de crise, tous les États membres doivent apporter leur aide aux pays touchés en première ligne. Cela peut vouloir dire relocaliser les demandeurs d'asile dans d'autres pays, apporter de l'aide matérielle aux pays touchés en première ligne, ou payer le retour des demandeurs dont la demande a été refusée.
Permanent, constant, effective solidarity.
Si le mot d'ordre de la Commission européenne est « solidarité », on a du mal à l'interpréter concrètement dans les propositions. Le pacte prévoit d'améliorer le traitement des demandes, de renforcer les contrôles aux frontières extérieures et de nouer des partenariats avec les pays tiers pour mieux freiner les flux. Le gros problème de la Commission européenne, c'est de mettre d'accord 27 pays qui ont une vision très différente de l'accueil. Si on prend l'exemple de la relocalisation des arrivants, les plus réticents à recevoir des demandeurs d'asile se réjouissent de voir que cette relocalisation n'est pas obligatoire dans le nouveau pacte. Et c'est là que le bât blesse. En 2019, il y a eu plus de 600 000 demandes d'asile dans toute l'Union européenne. Si la répartition entre États membres n'est pas obligatoire, des pays comme la Hongrie ou la République tchèque pourront simplement payer le retour des personnes déboutées dans leur pays d'origine. Mais l'accueil des personnes arrivant directement de la mer Méditerranée restera toujours entre les mains des pays en première ligne ou bien des quelques pays qui se seront portés volontaires pour les aider. L'année dernière, ce sont l'Allemagne et la France qui ont reçu le plus de demandes. Pour reprendre le cas de l'Allemagne, elle en a reçu 165 000 l'année dernière, soit plus d'un sixième du total des demandes, alors qu'il y a 27 États membres.
Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
Et dans ce même pays, des dizaines de mères se portent volontaires pour en accueillir encore plus. Depuis 2014, l'Allemagne a augmenté ses dépenses publiques pour l'accueil et le soin des réfugiés et l'économie allemande ne s'en porte que mieux d'après l'Institut fédéral de statistique d'Estatis. Angela Merkel avait raison. Depuis 2014, le PIB allemand n'a fait qu'augmenter. Selon de nombreux économistes allemands, cette croissance est due à l'augmentation soudaine de la population et à la hausse des dépenses publiques. Alors, on prendrait pas tout depuis le début ?
Fabienne Keller, la Commission a-t-elle, d'après vous, cédé, comme on le comprend à travers cette présentation, ces explications de la Marshall de Café Babel aux pays de l'Europe de l'Est, Pologne et Hongrie en tête, qui s'opposent depuis des années à une relocalisation obligatoire des personnes qui voudraient s'installer en Europe, des migrants? Est-ce qu'elle n'a pas eu d'autre choix que de céder à ces pays-là aussi?
Alors c'est vrai que c'est pas l'Europe comme on l'aime, où l'ensemble des États membres prennent un engagement. Dès sa première proposition, la Commission a prévu une sorte de dérogation pour les pays qui n'accepteraient pas la relocalisation, en leur proposant de participer autrement, notamment en finançant ou en organisant les retours vers les pays d'origine. Mais il faut aussi avoir conscience que c'est une concession qui correspond à une réalité. Il n'y a pas beaucoup de migrants qui souhaitent aller en Hongrie ou en Pologne, parce qu'ils savent qu'ils n'y seront pas du tout bienvenus. Vous savez, La démarche des migrants est très respectable. Ils cherchent une meilleure vie. On ne peut pas reprocher à quelqu'un cela. Et quand les partis d'extrême droite les associent à des délinquants, c'est faux. C'est des personnes qui ont une démarche, voilà, parce qu'ils fuient une guerre ou ils sont dans un pays économiquement très très fragile et ils cherchent une vie meilleure. Donc certains États membres bloqueraient au Conseil, on le sait, si une mesure de relocalisation était imposée. Donc la Commission en a pris acte et a aujourd'hui mis la disposition alternative dès à présent dans ses propositions.
Aujourd'hui, soyons clairs, avec ce pacte, s'il est voté et retenu, aucun pays ne sera obligé éventuellement d'accueillir des migrants sur son territoire. Il pourra participer au financement du retour en cas de refus.
Oui, alors voilà, la Commission fait quand même une hypothèse. C'est que pour leur très grande majorité, les 23 autres pays, donc je prends les 27 moins les pays du groupe de Visegrad, donc Pologne, Hongrie, République tchèque et Slovaquie, participeraient à la relocalisation.
Donc on a
c'est l'idée d'une coopération quand même très très majoritaire.
On acte une fracture européenne sur le
oui,
sujet.
Oui, mais qui peut être le moment venu, à la faveur d'un changement de gouvernement dans les États qui refusent la relocalisation, pourrait s'inverser. C'est la volonté, je crois, de la Commission, on ne peut pas le lui reprocher, d'avancer sur ce sujet assez symbolique, mais qui a fait l'objet d'une difficulté. D'une difficulté récente. On peut se rappeler que la France a initié les accords de Malte pour prendre en charge les personnes sauvées en mer, et que cet accord a été mis en place par 4 États membres, et que d'autres ne les ont pas rejoints. Donc, elle propose un système quand même qui concernerait une très grande majorité d'États membres. Et ça, c'est souhaitable. Et ça pourra permettre surtout d'apporter une solution en cas de venue massive, c'est-à-dire de difficultés liées à une guerre ou guerre civile, notamment dans un État du bassin méditerranéen.
Puisque vous mentionnez la France, on va parler de la France et de l'Allemagne rapidement. Je suppose que ces pays-là aussi ont été consultés avant la présentation du pacte. Ça veut dire qu'il y a eu un accord, un aval donné en aval par les deux puissances du continent et de l'Allemagne notamment, qui avait joué un rôle très important lors de la crise de 2015.
Oui, ce que je sais, c'est que les commissaires Ylva Johansson et Margaritis Schinas ont beaucoup consulté, sont beaucoup allés à la rencontre des gouvernements et parfois des parlements nationaux, pour essayer de trouver une solution. À nouveau, c'est un sujet difficile, sur lequel la perception est souvent très marquée. À l'extrême droite, c'est très instrumentalisé. Nous-mêmes, on a. Moi, je me suis efforcée d'aller sur le terrain, mais c'est difficile de percevoir ce qui se passe sur ces sujets d'asile et de migration. On voit beaucoup de reportages, on lit des chiffres, mais c'est pas quelque chose que la population connaît bien.
C'est la peur qui a gagné et pas les avantages qu'il pourrait y avoir à une migration. On l'a vu aussi dans cette vidéo. L'Allemagne, on le sait, en accueillant des migrants, a vu sa croissance être soutenue. Est-ce que c'est la peur qui a gagné?
Bien sûr,
de ce que l'on voit à la télé.
Bien sûr, les images choquent. Alors, avec des contradictions, des images choquent, par exemple, des afflux de migrants en 2015 qui font peur. Et dès qu'on voit la photo du petit Elan, ce petit garçon décédé, échoué sur la plage, ben tout le monde se dit c'est pas possible quoi, on peut pas laisser comme ça des gens mourir en mer. Donc le sentiment très ambivalent sur lequel surfe l'extrême droite, il y a déjà une pétition lancée contre ce pacte, oui. Mais je crois que c'est pour cela qu'il faut débattre de ce sujet de la migration au niveau européen, mais aussi au niveau national. Moi, je suis favorable à des débats nationaux sur la migration légale que vous évoquiez, sur les enjeux en termes de pays d'origine, sur l'organisation administrative et les moyens qu'on met dans l'accueil, dans l'intégration des personnes qui reçoivent le statut de réfugiés. C'est très important de bien les accueillir avec leurs proches, avec un apprentissage de la langue, enfin avec tous les outils pour permettre leur bonne participation à la société française et européenne dans laquelle ils s'inscrivent désormais. Donc je pense qu'il faut en parler, il faut banaliser ce sujet qui a de multiples aspects et essayer d'avancer de manière plus sereine en permettant à chacun l'expression, mais aussi le débat.
Et qui entraîne, vous le disiez, beaucoup de tensions de la part de l'extrême droite qui juge déjà l'Union européenne trop laxiste sur le sujet. À l'inverse, la gauche, elle, estime que l'Europe bafoue ses valeurs. Écoutez à ce propos votre collègue français écologiste Damien Carême, président aussi de l'Association nationale des villes et territoires accueillants. Il s'exprimait lors d'un débat au sein de votre commission fin septembre.
J'espérais que le pacte asile et migration, annoncé en grande pompe la semaine dernière par Madame von der Leyen, apporterait des solutions dignes et rendrait à l'Europe son humanité. C'est tout le contraire. Par vos propositions, vous pliez face aux gouvernements les plus réticents à l'accueil, préférant satisfaire Orban et ses consorts plutôt que de défendre haut et fort les valeurs de notre Union, l'humanité, la solidarité. Pourquoi ? Ces propositions piétinent aussi le Parlement européen, qui, avec une majorité de plus de 2/3, avait déjà adopté une position ambitieuse sur la réforme de Dublin, actant l'indispensable principe de solidarité. Vous avez préféré refaire une autre proposition pour relancer les discussions, pourquoi pas ? Mais pourquoi la calquer sur les demandes des pires démagogues, au lieu de tenir compte de la proposition déjà adoptée par ce Parlement ? Pourquoi ? C'est une entrave au principe de coopération loyale entre les institutions européennes, un principe pourtant inscrit dans les traités. Nous devons protéger les droits des réfugiés, défendre la solidarité à l'égard de la Grèce, de l'Italie et de Malte. Pourquoi n'avez-vous pas opté pour des solutions dignes et ambitieuses ? Pourquoi n'avez-vous pas pris en compte les positions de ce Parlement ? Pourquoi avez-vous préféré faire d'emblée une proposition de rabais, un pacte ?
Fabienne Keller, les mots de Damien Carême sont assez durs envers les commissaires européens qui discutaient avec vous ce jour-là. Il dit que l'Europe bafoue ses valeurs. Est-ce qu'il n'a pas raison quelque part, puisque l'Europe se targue d'être un continent plutôt très ouvert, qui jouit d'une image positive sur le sujet à l'international. Là, on voit qu'il y a un durcissement quand même de ces questions-là européennes et une raison qui est donnée plutôt à l'Europe de l'Est.
Alors, on peut faire cette analyse, mais je voudrais dire d'abord que j'ai beaucoup de respect pour lui parce que il a été
Qui connaît maire, comme vous très bien le sujet d'ailleurs.
Damien connaît très très bien le sujet. Il a été maire de Grande-Synthe, sur le banc de laquelle des camps importants de migrants, plutôt des personnes voulant partir au Royaume-Uni, mais voilà, des camps de migrants étaient installés. Donc il connaît très très bien le sujet. Nous travaillons ensemble sur l'évaluation du règlement de Dublin, donc respect pour son expérience et sa connaissance. Il a raison sur le fond, mais la Commission souhaite avancer. C'est le dossier infernal, la migration.
Qui
ne va satisfaire personne dans la solution qu'on va construire.
Qui va faire la une de l'actualité dans les années à venir. On le sait, il y a le réchauffement climatique notamment, il y a des régions autour de l'Union européenne.
Un défi majeur. Mais moi, j'apprécie beaucoup la méthode au Parlement européen, qui consiste à construire des coalitions, des consensus, des compromis ensemble. Moi, je suis chez Renew, le parti qui est au centre de ce qui fait le cœur de la gouvernance européenne, c'est-à-dire SND, Vert, Renew, mon mouvement, et sur ma droite, le PPE. Moi, je me suis impliquée dans ce dossier pour essayer de participer à la construction de cet accord. Ce ne sera pas une révolution. Ce pacte de la migration n'est pas un changement sur tous les plans. Mais comme Robert Schuman nous l'avait recommandé, des avancées significatives, parmi lesquelles, par exemple, la question des délais. C'est pas possible de laisser les gens traîner aussi longtemps dans des procédures monstrueusement administratives. Par exemple, sur le sauvetage en mer, l'Europe doit s'organiser pour sauver des personnes en mer. Vous le rappeliez tout à l'heure, 26 000 personnes. C'est pas possible. C'est pas l'Europe. Une dignité assurée pour l'ensemble des personnes accueillies et aussi avec justice et humanité, mais les personnes qui ne peuvent pas rester sur notre territoire, accompagnées et reconduites, parce qu'il faut que les textes européens s'appliquent. Donc c'est cet équilibre extrêmement fragile qu'il nous faut tous ensemble construire avec toutes les énergies et tous ceux qui connaissent bien.
Un mot sur les autres propositions aussi de la Commission pour les nommer, une accélération, une uniformisation de l'enregistrement des demandes aux frontières extérieures. C'est beaucoup plus consensuel et évidemment une demande devrait être examinée et sa possibilité de faire appel en 3 mois maximum. La procédure de retour devrait aussi durer 3 mois maximum, donc 6 mois en tout pour traiter l'entièreté d'un dossier. Le sauvetage en mer ne pourra plus entraîner de poursuites en justice comme cela pouvait être encore le cas. Récemment, création d'une agence de l'Union européenne pour l'asile, un plan aussi d'action de l'Union contre le trafic de migrants pour la période 2021-2025. Très rapidement, il nous reste très peu de temps. Fabienne Keller, quelle va être la suite pour ce pacte? Est-ce que vous avez, vous, au Parlement, la possibilité de l'amender et vous allez négocier aujourd'hui avec les pays membres de l'UE?
Alors bien sûr, nous les allons l'amender, le travailler. Il y a
pour l'améliorer, textes, je suppose.
Voilà, pour l'adapter. Nous avons une base, une connaissance de tous ces dossiers. Vous citiez la lutte contre les passeurs. C'est évidemment un sujet absolument majeur. D'ailleurs, la Commission a mis un accent assez marqué sur les relations avec les pays d'origine. Il y a la question de la migration légale aussi. La question des délais, vous le rappeliez, pour ne plus se retrouver face à des situations. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas où ils en sont. La question du respect du droit de chacun, notamment le droit à l'appel pour une décision qui leur serait défavorable avec l'aide d'un avocat. C'est les droits prévus par les conventions internationales et notamment la Convention de Genève. Donc nous parlerons de tout ça dans un objectif aussi.
Ce sont les États tout de même qui vont voter.
Ah, nous sommes dans le processus de codécision, donc Parlement et Conseil, mais aussi, enfin moi j'y tiens beaucoup, on a des textes européens mais mis en œuvre par les ministères de l'Intérieur, donc par des administrations très régaliennes. Il faut progresser dans la construction d'un esprit, d'une culture partagée sur la migration, se mettre d'accord en discutant sur la liste des pays sûrs, progresser dans nos reconnaissances mutuelles des procédures. Donc plus d'Europe et la montée en puissance de l'agence pour l'asile qui existe en situation de préfiguration doit permettre des rencontres entre États membres pour bien gérer ça tous ensemble. Donc beaucoup de travail devant nous, mais une volonté d'aboutir aussi rapidement que possible, parce que ce dossier, la crise que nous avons connue...
C'est un calendrier qui va s'étaler sur combien de temps dans...
Quand est-ce qu'on pourrait espérer? Les optimistes parlent de 12 à 18 mois, les plus réalistes de 2 ans si on travaille d'arrache-pied compte tenu des processus classiques de...
Et c'est un sujet qui pourrait interférer par exemple trilogue. Dans les élections législatives allemandes de 2021 et puis la présidentielle de 2022 en France éventuellement.
Ah bien sûr, les vies nationales
vous
se
poursuivent. Vous ne maîtrisez pas le calendrier des élections nationales.
Avec 27 États membres, il y a toujours une élection en cours.
Une dernière.
Donc le Parlement, en tout cas, est très prêt. Comme je vous l'expliquais, nous avons fait des travaux préparatoires pour être déjà très avancés sur l'analyse de la situation.
Et vous serez vous-même impliqué sur le sujet, évidemment.
Très
une dernière question sur les relations avec la Turquie, puisque dans ce pacte, il y a un lien, il y a un sujet, c'est la coopération avec les pays tiers. On sait que l'Union européenne travaille avec la Turquie sur ce sujet, la Turquie qui accueille des migrants sur son territoire en échange de l'argent de l'Union européenne. C'est un deal qui a été passé en 2016, 6 milliards d'euros. Est-ce que, au vu des déclarations récentes du président turc Erdogan, il faut revoir, et des tensions avec la France, notamment soutenues par ses partenaires européens, il faut revoir ces accords sur le sujet de la migration avec la Turquie? Et si oui, comment faire?
Les déclarations récentes du président Erdogan sont inadmissibles. Tous les grands dirigeants européens l'ont dit, Angela Merkel, le premier ministre grec, le premier ministre... néerlandais, Madame von der Leyen, Joseph Borrell, notre haut représentant pour les relations extérieures.
Et pourtant, nous sommes dépendants de la Turquie aujourd'hui.
On n'a pas le droit. Non, mais c'est pas possible de entre grands pays, grand ensemble. La Turquie est un grand pays. On ne peut pas avoir ce mode de d'échange et de relations, puisqu'il a traité de, enfin, il a indiqué qu'il avait une maladie mentale. Enfin, c'est un non-respect flagrant. On peut se rappeler que M. Erdogan est en difficulté en interne. Les sondages actuellement ne lui sont pas favorables. On peut penser donc que cette escalade dans la violence relève d'une tactique politique. On peut se rappeler aussi que juste avant le confinement, fin février, il n'avait pas hésité à déplacer des migrants installés dans la région d'Istanbul à la frontière grecque pour faire pression physiquement. Il y avait 20 000 personnes ainsi déplacées. Donc il est dans une démarche de rapport de force monstrueux, parfois de bouclier humain. Il faut vraiment, enfin j'appelle de mes voeux un apaisement de ces relations. C'est un grand pays qui mérite respect s'il nous respecte lui aussi. On peut rappeler également...
Et qui, sur ces questions-là, quelque part, nous tient, permettez-moi l'expression, mais puisqu'il accueille sur son territoire des migrants qu'on ne veut pas ou qu'on ne peut pas nous accueillir.
Oui, enfin, il faut aussi rappeler une réalité géographique, c'est que la Turquie est sur le chemin de l'Europe. Beaucoup de Syriens, et c'est ce qu'on souhaite quand même sur le moyen et long terme, souhaitent envisager un retour dans leur pays. Donc il y a aussi une réalité géographique et voilà, une réalité temporelle liée au déplacement. Mais on peut rappeler aussi qu'il y a des manœuvres militaires en mer Égée, puisque des bateaux militaires turcs accompagnent des bâtiments de fouilles de recherche gazière dans les eaux territoriales qui, pour nous, sont européennes, grecques ou chypriotes,
et
que des navires français sont allés à la rencontre de ces navires grecs. Donc on est dans des menaces réelles. Voilà, il faut tenir tête. Le président turc ne respecte pas les règles internationales, notamment qui seraient attendues d'un pays membre de l'OTAN, on peut le rappeler.
Donc, et qui poursuit, enfin qui est encore officiellement dans un processus éventuellement d'adhésion à l'Union européenne.
Oui, alors celui-là, franchement, celui-là, il semble s'éloigner.
Évidemment.
Comme d'ailleurs son pays s'éloigne en termes d'indépendance de la justice et la liberté de la presse. Donc ce dossier-là est pour l'instant mis de côté. Mais nous sommes encore partenaires dans un grand ensemble pour la défense de nos valeurs qui devraient être communes, de liberté, de démocratie, d'état de droit et de laïcité. Donc voilà, j'espère que tout ça va connaître une désescalade. Il allume un feu aussi dans un certain nombre d'autres pays arabes. Enfin, il alimente ce feu. C'est trop dangereux pour qu'on n'en appelle pas un apaisement, comme d'autres chefs d'État et responsables européens l'ont fait ces derniers jours.
Merci Fabienne Keller d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes membre du groupe Renew au Parlement européen et membre de la commission ici des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures. Merci encore.
Merci à vous.
Cette émission est à retrouver sur les sites de Café Babel et Radio Sensation. Merci, mais aussi, excusez-moi, sur les réseaux sociaux. On se retrouve très vite au Parlement européen pour un nouveau numéro de What's Up Europe. À bientôt.